Jégou et Hugo Oradou. Ils avaient été inculpés de viol aggravé lors d'une tournée du 15 de France. Il est pratiquement 18h10 ici à Paris. Bonne journée sur RFI, tout de suite Mardi Politique.
C'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et bonsoir, bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G. Donc tous les soirs, 18h10, 19h, on vous emmène au cœur des agitations, des actualités locales, culturelles souvent, comme ce soir par exemple, puisque nous sommes avec le THV, le Théâtre de l'Hôtel de Ville de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, partenaire de l'émission. On va être avec Gurval Reto, le directeur des affaires culturelles du THV, et Séverine Gaborio, élue à la culture de la commune. L'occasion avec toi Nolwenn, je crois, puisque c'est toi Nolwenn qui va te charger de mener à bien cette interview, de s'intéresser au projet culturel de la commune.
Exactement, on va s'intéresser à tout ça, aussi à la médiathèque et au programme du THV.
Voilà, au cours de cette émission qui sera également ponctuée en deuxième partie de musique, puisque nous serons avec Who is Who, attention à l'accent anglais, avec Emily et Daisy, deux sœurs jumelles franco-britanniques qui sortent leur EP Shoes le 24 janvier prochain, l'occasion de nous parler de leur univers musical, de leur projet et puis de leur performance aussi, parce qu'elles ne font pas que ça, elles ne font pas que chanter. J'en dis pas plus, ce sera autour de 18h30 environ. Topette tous les soirs, alors non, si, il faut quand même que j'annonce, il y aura Vélopédia au cours de cette émission, et puis on se quittera avec Panorama, avec Mauve, Mouvement pour les agricultures urbaines. On s'intéressera à un des acteurs de cette association. Et Topette, donc tous les soirs 18h10, 19h en podcast sur radio-g.fr, sur les plateformes également, et sur les réseaux sociaux aussi, pour suivre tous les invités qui sont passés ou qui vont arriver sur @topetteradiog. C'est parti.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, on fait un point sur l'actu, et c'est encore avec toi Nolwenn. Nolwenn, controverse autour de la reprise de l'ex-café des sports au Lion d'Angers.
La reprise de l'ex-café des sports du Lion d'Angers par un proche des milieux identitaires suscite beaucoup de tensions. Le nouveau gérant Louis Guimond a ouvert les portes du lieu en novembre, mais l'accès est réservé pour l'instant aux membres de son association. Une demande d'ouverture officielle a été déposée en mairie, mais des associations locales dénoncent déjà des liens avec des groupuscules d'extrême droite. Le maire Étienne Glémaud assure que la commune défend les valeurs du vivre ensemble et rejette tout extrémisme. De leur côté, les collectifs citoyens appellent à des actions concrètes pour contrer ces initiatives qu'ils jugent contraires à ces valeurs.
Toujours en Anjou, 12 maires qui dénoncent des coupes drastiques et appellent à la concertation.
Les maires de l'agglomération angevine montent au créneau contre les choix budgétaires de la présidente des Pays de la Loire, Christelle Morançais. Ils dénoncent des coupes drastiques dans des secteurs essentiels comme la culture, le sport ou encore l'écologie. Des coupes décidées sans consultation locale. Ces élus demandent un report du vote du budget régional. Ils appellent à une vraie concertation pour éviter ce qu'ils qualifient de décision injuste et destructrice.
Des plantes qui ne sentent pas bon et qui sont donc arrachées du côté d'Angers.
À Angers, quartier Lafayette et Blé, une forte odeur a intrigué les habitants et surpris les passants. Ce n'était pas du cannabis, mais une plante vivace, la crucianelle, qui est plantée sur la place Giffard-Langevin, rénovée l'an dernier. Elle est utilisée pour éloigner les chiens et les chats, mais elle dégageait une forte odeur gênante. Face aux plaintes, la ville a donc décidé de remplacer ces plantes par des variétés plus agréables comme des géraniums et des salvias.
Mais où va le monde si les plantes, même à Angers, n'ont plus le droit d'exister tranquillement? On te retrouve dans quelques instants, Nolwenn, bien sûr, puisque tu vas recevoir nos invités. Mais avant tout ça, une autre info. Vous le savez, Topette et Radio G est partenaire du premier salon du livre organisé par le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Ça se passe ce dimanche 2024 de 10h à 18h sur la thématique patrimoine et environnement. L'occasion de recevoir des auteurs et auteureux qui ont questionné justement cette thématique entre environnement et patrimoine. Justement, le prieuré est le bon exemple. On aura par exemple Inès Léraud, Nicolas Joliveau, Emmanuel Litou, même La Topette. Plus d'infos sur prieuré-saint-rémy.fr. Et nous, maintenant, on revient un petit peu du côté d'Angers. On s'arrête à Saint-Barthélemy d'Anjou avec toi, Nolwenn.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, on est avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, partenaire de Radio G. Et on est avec Gurval Reto. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des affaires culturelles. On est aussi avec Séverine Gaborio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, élu à la culture. Et avec vous deux, on va parler de la saison culturelle du THV, de la médiathèque et aussi du projet culturel de la commune dans sa globalité un petit peu. Mais d'abord, Gurval, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler ce qu'est le THV ?
Alors le THV, c'est donc le théâtre de l'hôtel de ville. Sa particularité, c'est que c'est un théâtre qui est au sein même de la mairie. C'est-à-dire que les gens qui viennent au théâtre passe sous liberté, égalité, fraternité. C'est tout un programme. Et ça va aussi avec les ambitions culturelles de la ville. Donc Séverine pourra en parler tout à l'heure. Et le THV, c'est une scène historique. Elle a 40 ans. C'est sur Angers, c'est là, après le Quai, c'est la deuxième grosse scène, en fait, du territoire. Et la particularité depuis 6 ans désormais. 4 ans, pardon. Depuis 4 ans, c'est que nous sommes scène conventionnée art enfance jeunesse. Donc nous avons un label qui nous est décerné par l'État avec des missions particulières, mais label qui nous entraîne, qui nous fait glisser généreusement et joyeusement vers la jeunesse, vu que nous avons un gros projet à destination de l'enfance et de la jeunesse, avec des spectacles, des stages, des résidences, tout un travail qui est pensé autour de ces adultes de demain.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler, ça va être quoi les temps forts de la programmation à partir de janvier? Est-ce qu'il va y avoir des gros spectacles de danse, de théâtre?
Alors, le THV est une scène pluridisciplinaire. Donc effectivement, nous aimons passer d'une esthétique à une autre. On sort d'un gros festival là, qui s'appelle Zone de Turbulence, qui a mis un peu de turbulence partout sur Angers et l'agglomération. Et là, on se recentre quelque peu sur notre territoire le territoire bartholoméen. Et des spectacles, oui, on en a encore une bonne 20-25 qui vont arriver là entre janvier et juin. Des spectacles de théâtre, on commence dès début janvier, le 7 janvier avec Holden, qui est un spectacle qui s'adresse à l'adolescence mais également aux adultes, hein, très clairement sur ce passage qui est toutes ces transformations qui sont liées à l'adolescence, avec une comédienne qui est fantastique. Moi, je sais que je suis tombé vraiment très très impressionné par le texte et la comédienne. Et puis on a des projets également en musique. On va avoir Siane Potok, qui est une jeune musicienne plutôt électro-techno. Donc ça c'est encore un décalage par rapport à ce que nous proposons régulièrement. On va avoir Des nuits pour voir le jour, qui est un spectacle de cirque, ce coup-là où on est sur un seul en scène qui nous raconte l'histoire d'une acrobate, hein, en fait, qui passe un peu son temps la tête à l'envers et nous entraîne dans toute sa vie d'acrobate, qu'elle nous raconte au fur et à mesure, en fait, les blessures qui sont liées, mais également les joies, etc., de la vie d'acrobate. Et puis on a, comme d'habitude, le projet qui clôt la saison avec Vilo-Luminologie, nos explorations de la ville, qui là mettra la ville en lumière.
Et justement, il n'y a pas que des spectacles au THV, il y a aussi des ateliers et des rencontres. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ce qu'il y aura sur ce point de vue,
Alors,
sur ce point-là?
L'envie au THV, c'est vraiment de sortir de la simple consommation de spectacles. Nous affirmons que nous ne sommes pas que un lieu de divertissement, mais bien un lieu d'éducation, un lieu de compréhension. Et ça passe aussi par plein de temps où nous créons une convivialité. Les gens ne viennent pas au THV simplement pour voir un spectacle, ils viennent aussi pour pratiquer. Nous avons des stages, là on aura un stage par exemple avec l'équipe qui jouera Pierre et Plume de l'atelier flottant, où on viendra faire du théâtre d'objets et de la marionnette. Là on sort d'un stage de danse, on a plein de temps comme ça qui sont pensés pour créer du lien, le lien, la cohésion sociale, c'est une chose qui est fondamentale. J'ai entendu que monsieur Brégeon, le maire de Saint-Barthélemy, fait partie des signataires, hein, de la tribune là. Cette volonté de créer de la cohésion sociale et du lien fait partie intégrante du projet du THV, et ces explorations de la ville, hein, qui sont nées désormais il y a 5 ans, sont l'exemple même. Ça veut dire qu'à un moment donné, projets, ce sont des projets qui sont co-construits, qui parlent à la ville et qui parlent avec les habitants de la ville.
Et justement, vous disiez que le THV est labellisé Art Enfance Jeunesse. Comment on fait, Séverine, pour quel projet on mène spécifiquement auprès des écoles et des enfants? Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Ou Gurval?
Mais si, en fait, il y a des immersions dans les classes et enfin, il y a tout un. En fait, ça fait partie de notre politique implicative. Voilà, c'est ça. Et du coup, toutes les écoles sont concernées. Il peut y avoir des immersions dans les classes et puis, bah, des spectacles à destination de l'enfance, de la jeunesse, pour tous les âges. Et puis, bah, aussi, bah, les infiltrés. Je pense que tu en parleras un moment, mais les infiltrés, c'est comment on implique un groupe de jeunes dans le monde du spectacle, qui va apprendre ce que c'est qu'un théâtre de A à Z, choisir un spectacle pour une programmation. Enfin voilà, tout tourne autour de l'enfance et la jeunesse et comment on les amène à la culture.
Les infiltrés qui viennent souvent s'infiltrer dans le studio, justement.
Oui. On peut en parler maintenant, justement. Comment ça se passe exactement, Gurval, les infiltrés? Qu'est-ce que c'est? Si on détaille un petit peu.
Les infiltrés, c'est une aventure avec six enfants qui intègrent à partir du mois de juin l'équipe du THV et ils font partie intégrante de cette équipe. C'est vraiment une chose qui pour nous est essentielle. On a un premier rendez-vous fin juin, début juillet où l'équipe s'arrête. On va jouer avec eux, on les rencontre à la dimension de l'enfance aussi. Et puis, ils partent à Avignon. Ils ont le droit à un petit séjour avignonnais de 3-4 jours. Ils voient des spectacles, rencontrent des artistes, rencontrent des critiques, des journalistes, etc. autour du monde du spectacle vivant. Puis au mois de septembre, moi je les retrouve à nouveau, ils choisissent un des spectacles, c'est bien leur choix. Dans l'équipe, nous n'avons pas notre mot à dire. Dans les spectacles qu'ils ont pu voir à Avignon, ils vont en choisir un. Et jusqu'à l'arrivée de ce spectacle, la saison suivante, ils vont être infiltrés au THV. Ils vont aller à la com, ils vont aller à la médiation, ils vont aller à l'administration, à la technique, etc. pour comprendre l'ensemble du rouage du spectacle vivant. Jusqu'à, effectivement, prendre la parole devant le public pour la précédente saison. Et en même temps, nous, ils viennent nous chatouiller à plein d'endroits. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on est une équipe de la moyenne d'âge, elle doit être à 40 ans aujourd'hui dans l'équipe du THV. Et d'un seul coup, on a des enfants de 9, 11 ans qui sont là avec leur fraîcheur, avec leurs envies et qui nous re-questionnent toujours sur c'est quoi l'enfance.
Et justement, si on reparle un petit peu plus des spectacles, est-ce qu'il y en a vous un en particulier dont vous aimeriez parler, qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez conseiller à nos auditeurs?
Pour préciser, parce que souvent c'est la question piège, hein,
Gurval.
Oui,
c'est la question piège. Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas forcément.
Je précise aux auditeurs, auditrices, du coup ça ne signifie pas que les autres ne valent pas la peine.
Oui, c'est alors choisir un spectacle quand on... Là, c'est même, je dirais que le travail de la programmation, mon travail du quotidien, c'est de choisir des spectacles et de passer mon temps à dire non à plein de spectacles. Tous ceux qui sont dans la saison, c'est des spectacles que je revendique parce qu'ils ont, ils ont un vrai intérêt. Donc après, en choisir un en particulier, c'est extrêmement compliqué. Par quoi je vais attaquer.
Il y en a pas forcément, ça peut être.
Il y en a plein, en fait. J'ai envie de parler de tous.
Voilà. Après, on peut se laisser le temps d'une pause musicale aussi pour que tu réfléchisses, si tu veux, Gurval.
En fait, il y a plein de questions. C'est par où on l'aborde. En fait, un spectacle, il est parfois bouleversant artistiquement. Parfois, c'est la thématique. Parfois, c'est la présence d'une comédien, comédienne, danseur, danseuse qui va éclairer, qui va amener quelque chose de ce petit plus, en fait, qui fait que le spectacle rentre vraiment. Si je pourrais parler, allez, Personne n'est ensemble sauf moi, en fait, qui est un magnifique spectacle qui parle de l'inclusion. Et donc là, on est sur une thématique de société également. Sur le plateau, on a cinq jeunes artistes, hommes-femmes, qui ont une légère déficience mentale. Et ça ne se voit pas au premier abord. Et c'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Et en même temps, ils nous amènent avec une réelle poésie, en fait, dans leur présence, etc. Et moi, c'est un spectacle qui m'a réellement bouleversé.
On reste au THV, on reste à Saint-Barthélemy d'Anjou, on reste en culture, et on va même parler du danger qui guette la culture, en l'occurrence à Saint-Barthélemy d'Anjou, mais partout ailleurs sur le département et même la région des Pays de la Loire. On va aller sur les pistes cyclables aussi dans quelques instants, mais avant tout ça, on fait une pause musicale avec 405 Metronomy avec Big Pig.
Mirror.
toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM de Radio G. On écoutait 405 justement de Métronomie avec Big Pig. Dans quelques instants, préparez-vous à monter en selle puisque nous serons avec Nicolas qui va nous emmener sur les pistes cyclables avec sa chronique Vélopédia. Mais avant tout ça, on reste du côté du THV et on s'intéresse à la politique culturelle de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Tout à l'heure, on le disait, du coup, le THV, il est labellisé Art Enfance Jeunesse. Et du coup, comment la culture, elle vient en complément de l'éducation qu'on fait à l'école, Séverine, comment ça vient s'ajouter, ça vient rajouter un plus aux enfants?
En fait, c'est encore plus vaste que ça, parce que quand on a été élu, on a construit une politique, on a construit des idées pour qu'en fait ce soit quelque chose de très large. Et donc la culture, ça vient en plus. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la démocratie implicative. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire du lien entre les différents services, entre le VPR pour le social, l'éducatif, le culturel, mais aussi avec les habitants. C'est comment on crée une proximité avec eux pour qu'ils s'impliquent dans la vie de la culture et deviennent aussi des acteurs. Donc c'est vraiment global, ouais.
VPR, Village Pierre Rabhi,
oui,
c'est ça?
Oui, Village Pierre Rabhi, c'est à la fois le centre social et le... J'ai un trop de mémoire.
C'est le Village Pierre Rabhi, VPR, c'est comme ça qu'on va l'appeler,
oui,
en tout
oui,
cas.
Oui, oui, oui.
Nolwenn.
Et comment, de manière très concrète, du coup, les habitants sont impliqués dans la vie culturelle de la commune? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que c'est eux qui choisissent parfois des spectacles? Comment ils sont impliqués?
Alors, ça peut être ça, justement, avec les infiltrés, comme t'expliquais tout à l'heure. Et ils sont surtout impliqués à un moment important que t'as présenté aussi, Gurval, c'est avec les explorations de la ville, où là, il y a tout un projet qui est monté pour l'année. Et puis la restitution, c'est au mois de juin. Et là, les habitants sont appelés à participer à un projet culturel. Donc, il y a eu Radio Rêve Saint-Barth, une petite promenade, les portraits de rue. Enfin, c'est vraiment implicatif. Et là, cette année, ce sera sur la luminologie, avec Flop. Faut pas que j'en dise trop, peut-être. Si, c'est bon, d'accord, ok. Donc, Flop, qui est un artiste associé au THV, parce que c'est aussi ça, le THV, c'est l'aide à la création et les résidences d'artistes.
Et du coup, qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra créer de nouvelles... Il sera en résidence au THV?
Alors, il est déjà très résident au THV. Enfin, il est très impliqué parce que c'est sa troisième année en tant qu'artiste associé. Mais ça, tu vas pouvoir détailler plus que moi.
Oui, en fait, à Flop, il est bricoluminologue. Et depuis 2 ans et demi, désormais, il se trouve que la ville a racheté un ancien salon de coiffure en attendant un futur projet urbain. Et ce salon de coiffure, il est habité désormais par Flop et par le club, le centre de luminologie ultra branché. Et tous les mois, depuis 2 ans et demi, nous invitons des enfants, des adultes, des écoles, un IME, à investir ce lieu. Donc, on a un samedi par mois, le samedi matin, en fait, où la vitrine est repensée en bricoluminologie. Voilà, donc c'est une vitrine qui s'allume tous les soirs avec il y a du son, il y a des petits moteurs qui font tourner des éléments et ça se reproduit directement derrière. On a l'image en fait qui apparaît, qui est une image qui est artisanale presque, parce qu'on n'est pas sur du film, c'est des projecteurs avec les ombres, etc., qui vont travailler, qui vont nous dessiner un paysage. Et là, sur la vélo-luminologie, on va créer, il y aura toujours cette vitrine qui existe. Mais nous allons avoir une quinzaine de vitrines qui vont d'un seul coup apparaître autour de l'église, autour de la mairie. On va se servir des fenêtres des habitants, mais également de la mairie, etc., pour créer des paysages imaginaires qui vont s'illuminer comme ça pour une soirée. Et tous ces paysages sont faits avec les habitants.
Et du coup, on a compris, les habitants et les enfants sont très impliqués dans la vie culturelle de la commune. Et si on parle un petit peu plus maintenant de la médiathèque de Saint-Barthélemy d'Anjou, en quoi c'est un acteur clé de cette vie culturelle, Séverine?
Ah bah, la médiathèque, c'est un acteur clé au niveau de la lecture publique, hein, c'est rendre la lecture accessible à tous. Mais la médiathèque, c'est aussi un vecteur d'animation. Enfin, il n'y a pas que de la lecture. Et puis, c'est des conférences, des ateliers, qui tournent autour de la lecture, bien sûr, des venues d'auteurs, des expositions. Enfin, c'est un lieu qui vit pour faire venir justement les gens et que chacun y retrouve son compte. C'est aussi un lieu accessible. puisque, enfin, comme c'est l'accessibilité pour tous, c'est ce qu'on défend aussi, mais dans tout ce qui est culturel sur Saint-Barth et ailleurs, hein, pour tout. Il y a aussi des meubles qui sont arrivés, du facile à lire, justement, pour les personnes qui sont plus éloignées de la lecture, qui ont du mal avec la lecture. Et puis, cette année, il y a un petit fil rouge qui est le rêve. Donc, c'est notre fil rouge, le rêve pour la médiathèque. Et puis, il faut préciser que c'est les 50 ans de la médiathèque cette année et que, d'ailleurs, on les fête ce soir. Donc, enfin, tout à l'heure. Et voilà, le rêve. Il y a tout un fil rouge autour du rêve, ma médiathèque rêvée.
Séverine Gurval, je vous annonce maintenant, Nolwenn va aller sur un terrain qui peut vous irriter d'une certaine façon, car je crois qu'on va parler de ce qui se passe à l'échelle régionale sur les subventions qui sont accordées à la culture.
Oui, parce que Christelle Morancet, elle a prévu une baisse de 74% des subventions pour la culture. Alors même si vous n'êtes peut-être pas impacté directement, est-ce que indirectement ça pourrait vous toucher quand même ou comment ça se passe? Vous n'êtes pas impacté?
Ah si, on a impacté directement. On a reçu beaucoup d'acteurs et de lieux culturels un courrier nous annonçant qu'on n'aurait pas la subvention de la région. Donc voilà, ça a été un peu la surprise, la colère, moi j'avoue, et puis là la frustration maintenant puisque c'est quelque chose qu'on nous impose alors que la saison elle est prête et que il va falloir trouver des solutions.
En fait, faut être conscient que la politique publique, elle s'écrit à plusieurs mains en fait, et c'est ça qui fait sa richesse aussi. On est sur une compétence partagée. Alors, ce n'est pas une compétence obligatoire, mais ce n'est pas non plus une compétence optionnelle, c'est une compétence partagée. Et comment est-ce que, entre des collectivités, des mairies, des agglos, des départements, des régions et l'État, en fait, à un moment donné, il y a, depuis les années 80 réellement, mais même, en fait, ça suit la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a une vraie volonté de tisser, de réfléchir ensemble à une politique qui va au plus proche des habitants, quel que soit l'endroit où ils vivent. Et que là, d'un seul coup, sans préavis, on a à un mois de certains événements qui ont lieu dès janvier, je pense, là, sur Angers, on a aussi le festival Premier Plan qui ouvre maintenant et qui se retrouve attaqué parce que on est sur un changement, un paradigme complet en fait de la culture. Je pense que la culture est consciente, les acteurs de la culture sont conscients en fait que économiquement on traverse une crise aujourd'hui en France. Mais c'est des choses qui se travaillent, qui se discutent, et avoir d'un seul coup un arrêt brutal qui met en danger l'ensemble des projets culturels, c'est dramatique. Je trouve ça, et c'est irréfléchi en même temps. Donc c'est ça qui met tout le monde en colère en fait. On est conscient, voilà, il n'y a pas de problème. Je pense que tout le monde est conscient qu'il faut réinventer des modèles, mais pas comme ça, pas sans réflexion, pas sans échange.
Oui, pas de manière aussi brutale. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On pourra, oui.
Et si je continue. En fait, nous, réellement, pour le THV, ce que ça veut dire, c'est que on avait une subvention qui tombait tous les ans, plus des projets qui étaient aidés sur la coproduction, sur l'aide aux équipes, etc. Et réellement, l'impact, il est que sur la saison prochaine, à partir de septembre, parce que nous, l'argent est engagé jusqu'en juillet, à partir de septembre, il nous faut revoir l'ensemble du projet et que derrière, on a un nombre d'équipes artistiques qui vont se retrouver en réelle difficulté. Comment vont-elles créer? Comment vont-elles tourner? Combien de spectacles il y aura sur les gens qui travaillent autour de la culture, je pense aux intermittents, qui vont se retrouver en difficulté aussi, qu'ils soient artistes ou techniciens. Voilà, on est sur un modèle qui est vraiment en difficulté aujourd'hui.
Et puisqu'on prend le temps d'en parler, Séverine et Gurval, vous évoquiez tout à l'heure le maire de Saint-Barthélemy, oui, Anjou, qui a rejoint qu'est-ce qu'on fait concrètement face à ça et qu'est-ce qui peut se passer si jamais ça ne bouge pas en face?
Si ça bouge, c'est ce qu'on souhaite. Parce que moi, je voulais aussi préciser que les élus de Saint-Barth soutiennent vraiment la culture. C'est quelque chose qui est intrinsèque à Saint-Barth. La culture, on la défend. Et même dans le budget, hein, on va faire ce qu'il faut pour l'instant, enfin tant qu'on peut, pour soutenir la culture. Et puis, si ça bouge pas, de toute façon, il faudra réinventer des modèles. Il faudra, mais c'est ce que fait déjà le THV, hein, et d'autres acteurs, hein, la mutualisation, tout ça. Mais effectivement, il faudra réinventer les choses. Mais là, c'est vraiment sous la contrainte. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Et puis, je voudrais juste ajouter, si je peux, peut que moi j'ai une véritable inquiétude, non seulement pour tous les acteurs de la culture, mais pour les jeunes en devenir, parce que la culture c'est vraiment, c'est la nourriture de l'esprit, c'est l'ouverture, c'est le lien social, c'est ce qui va amener certains à être les futurs citoyens de demain, à avoir leur libre arbitre. Et là, moi, je suis vraiment inquiète là-dessus, parce que si on n'a pas ça de la sculpture scrollée, c'est pas la peine, quoi. Ouais.
Et Gabriel, un tout petit mot, en tant que citoyen, citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, en tant que citoyen, citoyenne, aujourd'hui, il y a des pétitions, il y a des revendications. On peut interpeller nos élus aussi, qui sont des élus régionaux, qui vont se retrouver. Parce qu'en fait, nous parlons aujourd'hui de coupes budgétaires qui réellement n'existent pas. Le budget n'est pas voté. On a des annonces avant même qu'il y ait une discussion au sein du conseil régional, ce qui... Alors je comprends pas, c'est la démocratie amène normalement des discussions, mais là les décisions sont prises avant même discussion. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est effectivement revendiquer auprès de nos élus régionaux que non, vous ne pouvez pas aller jusque là. Vous devez rentrer en communication, vous devez nous aider et vous aider en fait, parce que on parle de culture, mais moi je suis horrifié quand j'entends que le planning familial va être touché. On parle de questions de société. Réellement, quelle société voulons-nous? Une société sur laquelle il n'y a plus aucune cohésion sociale. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup de Churchill en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que un de ses ministres vient le voir pour lui dire que il faut que l'économie de guerre soit plus conséquente et qu'ils vont supprimer l'ensemble des budgets à la culture, et Churchill de répondre: mais dans ce cas-là, pourquoi nous battrons-nous?
Et ben voilà, ça va être une belle phrase pour conclure. Bien sûr, vous restez avec nous puisqu'on va conclure ensemble tout à l'heure. On va faire un petit tour à vélo là pour se décondir les esprits et se remettre un petit peu de positif malgré tout. On va écouter de la bonne musique aussi avec les deux sœurs jumelles de Who Is Who qui arrivent dans quelques instants par téléphone. Mais avant tout ça, donc on écoute Vélopédia de Nicolas.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon avec Nico dans Topette.
Bonjour à tous, c'est Nicolas pour une nouvelle chronique, la dernière de l'année, mes amis cyclistes. Alors pour clore 2024, j'aimerais parler sécurité. On évoque souvent les solutions de parking sécurisées et les équipements vélos nécessaires pour éviter le vol, mais vous pouvez remarquer que ça ne suffit pas. Et bien souvent, l'insécurité de votre vélo est la première chose évoquée en point négatif. On réfère les précédentes interviews de cyclistes qu'on a diffusées dans Vélopédia, à retrouver d'ailleurs sur le site de Radio G, je le rappelle. Et bien, j'ai aujourd'hui deux choses à vous présenter pour renforcer tout ça et apaiser vos craintes d'investir dans un beau vélo. Avec tout d'abord les solutions de marquage vélo. Obligatoire depuis 2021, le marquage vélo, c'est la solution pour répertorier, tracer et retrouver un vélo. Comme une plaque d'immatriculation d'une voiture, le marquage vélo permet d'identifier le propriétaire d'un vélo et de le localiser. Votre vélo est ainsi gravé avec une série de chiffres et de lettres et dispose d'un autocollant scellé pour rester à vie sur votre cadre de vélo. Dans les grandes villes, le vol de vélo est en haut de la liste des vols de véhicules et bien souvent, les vélos volés sont retrouvés par la police, mais restent irrécupérés faute d'identifier le propriétaire. Grâce au marquage vélo, c'est fini tout ça. Systématiquement, un vélo vendu est aujourd'hui gravé et enregistré au répertoire national. Vous pouvez donc toujours y croire si demain, on vous vole votre vélo. L'autre solution est d'assurer votre vélo. Aujourd'hui, les grandes compagnies d'assurance proposent des contrats adaptés au vélo avec plus ou moins d'options. Vous pouvez trouver des contrats allant de 2 euros à 30 euros en moyenne par mois, suivant le niveau de protection choisi et la valeur du vélo assuré. D'une manière générale, une assurance vélo, c'est vous protéger contre le vol, mais aussi contre les dommages matériels. Par exemple, certains contrats proposent une prise en charge en cas de vol de votre batterie si vous avez un vélo électrique. En cas d'accident aussi, vous pourrez compter sur des prestations de location de vélo pendant l'immobilisation du vôtre ou même des frais de gardiennage pris en charge. Il y a aussi votre équipement, casque, veste, qui sont couverts dans l'assurance. Il existe aussi des assureurs spécialisés vélo qui ne proposent que des contrats pour les vélos et qui sont certainement beaucoup plus à même de répondre à vos demandes particulières. Sachez d'ailleurs qu'initialement, dans votre assurance habitation, la responsabilité civile peut prendre en charge les dommages causés à votre vélo dans certains cas. Pour ceux qui possèdent notamment un vélo électrique ou même un vélo cargo, des vélos donc à forte valeur, l'assurance vélo devient un incontournable pour se protéger, mais aussi protéger les autres. Dans une utilisation quotidienne, avec l'équipement requis, le vélo est un investissement à long terme qui, selon moi, doit être assuré si on y met le prix. Surtout avec les vélos cargo qui, en cas d'accident, peuvent avoir des frais de réparation plus élevés qu'un vélo classique. Vous retrouverez plein d'informations concernant le marquage vélo sur le site de la Fédération des usagers du vélo, et pour les assurances, rien ne vaut un petit passage en agence pour en savoir plus. À vélo bien entendu. Allez, à l'année prochaine. Ciao.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Nicolas, qu'on va retrouver l'année prochaine, du coup, puisque Topette sera en vacances dans les deux dernières semaines de décembre et puis la première de janvier. On va retrouver Guyanvalet et Séverine pour conclure cette émission, mais avant tout ça, on part en musique avec E is E.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Excusez pour l'accent, vous connaissez mon accent légendaire en anglais. Ce sont deux sœurs jumelles franco-britanniques qui sont avec nous par téléphone ce soir. Bonsoir Émilie, bonsoir Daisy.
Bonsoir.
Alors, l'EP Shoes va sortir le 24 janvier prochain. C'est le deuxième, puisqu'il y en avait déjà eu un qui était sorti en 2018. C'était une période avant Covid. Tout ça, ça s'appelait To Be. Alors, évidemment, je vais surveiller hautement mon accent ce soir, mais plus sérieusement, on va surtout parler de votre univers pop, folk, funk aussi. C'est frais, c'est dynamique. Et ça veut surtout faire passer des messages forts, notamment sur l'affirmation de soi, sur le jugement de soi. Je pense à Mirror, qui est sorti le 13 décembre dernier. Avant de parler de cet EP qui sort incessamment sous peu, peut-être vous présenter aux auditeurs, auditrices de Topette, le nom de l'émission. Who is who? Who are you?
Alors, on est les Who is who. Donc, qui est qui en anglais? Moi, je suis Émilie Cadeau.
Et moi, c'est Daisy Cadeau. On a un peu la même voix.
Et oui, on a les mêmes cordes vocales en tant que sœurs jumelles, du coup. On a une petite particularité dans notre duo, c'est qu'on fait de la musique avec nos claquettes rythmiques aux pieds pour rajouter la rythmique, parce que c'est un peu notre point fort, disons. Et c'est dans la musique, c'est ce qu'on aime rajouter, le côté musical
et rythmique
et nos deux voix similaires en harmonie. Et du coup, on vient de La Rochelle maintenant, et on s'est développé grâce à la ville d'Angers. On a été soutenu par la région Pays de Loire et le département Maine-et-Loire pour notre premier EP To Be. Et maintenant, on est du coup en train de défendre notre nouvelle EP Shoes avec deux O, telle une paire de jumelles à la recherche de qui est qui.
C'est des questions qu'on vous pose souvent, j'imagine. Votre binôme, parce que forcément, quand on est jumeau ou jumelle, ça doit être une expérience assez singulière. Ça a toujours marché ou c'était une évidence pour vous de faire de la musique ensemble? Ou comment c'est arrivé tout ça?
En fait, notre mère était prof de danse et avant danseuse dans le cabaret Le Moulin Rouge. Et sur les bateaux de croisière, et notre père est technicien son et lumière, et après dans le cinéma, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Notre mère a créé une école de danse quand on était petite, après ça. Et en fait, on a commencé par la danse. Notre maman avait une guitare dans le grenier, et en fait, on a commencé à l'adolescence à vouloir s'exprimer autrement. Et donc, c'est passé par la musique, par les textes.
Et l'écriture, voilà, de composition en français et en anglais. Et c'est notre maman, du coup, qui est anglaise, avec qui on a vécu et qui est notre première langue natale, du coup.
Oui, vous chantez autant en anglais qu'en français, ça dépend des titres et puis des couplets également. Justement, l'univers musical, pour donner à entendre un petit peu, on va entendre tout à l'heure un de vos titres, mais du coup, pour donner un petit peu à décrire, j'annonçais du pop, folk, funk tout à l'heure, c'est très frais. Est-ce qu'il y a une direction artistique particulière que vous essayez de mettre dans vos musiques?
Alors, dans la direction artistique, on n'en cherche pas forcément une. On fait vraiment en fonction de nos différentes influences, qui sont assez finalement différentes. Moi, je suis plus dans l'écriture et de les musiques, on va dire posées, la chanson. Et Daisy va venir appuyer un peu plus dans l'univers cabaret. D'où le côté
spectacle, show, un peu.
Oui, spectacle. Et après, j'ai longtemps travaillé pour un label de musique funk, justement, et musique du monde, ce qui a dû influencer un peu nos compositions.
On parle de rythme accrocheur, mais aussi de messages importants sur l'affirmation de soi, le jugement de soi, comment on peut se regarder vis-à-vis des autres. Je pense au titre Shoes, pardon. Sur l'affirmation de soi, peut-être parler des messages aussi qui passent dans votre musique, dans vos paroles.
Pour nous, ça nous paraissait évident ou même naturel. C'est un peu notre vie, en fait, de devoir s'affirmer en tant qu'individu seul. Quand on est jumelle, beaucoup de personnes nous disent les jumelles. Et donc, c'est un genre de nouveau développement personnel, on peut dire. Par la musique et le fait d'être jumelle, voilà, on voulait mettre ça en avant.
Justement, en fait, on se dit, bah, déjà le fait qu'on fasse des claquettes, c'est un élément principal dans notre musique, mais en même temps, le fait, les chaussures, c'est tellement personnel et ça donne le style et la personnalité de chacun, qu'on se dit que c'était vraiment un des sujets principaux, d'où le nom aussi de l'EP, oui, qui sort fin janvier. Et d'ailleurs, on a fait un clip avec Fuse au musée des métiers de la chaussure à Sèvres-Moine, toujours dans la région Pays de Loire.
Oui, c'est ça. C'est annoncé comme un lieu symbolique de l'artisanat français. Ça vous paraissait important, au-delà de toute cette thématique de la chaussure, j'ai envie de dire, de proposer aussi de partager l'artisanat français au travers de visuellement de votre musique?
Oui, justement, dans notre clip Shoes, en fait, l'idée, c'était de mettre en avant la fabrication d'une chaussure. Nous, on fabrique nos propres claquettes pour après finir sur scène. Et on s'est dit que, au final, on fabriquait notre personnalité au fil du temps, au fil des influences et de ce qu'on vit. Et en tant que jumelles, qui partons de la même base, on va dire, ADN, en fonction de ce qu'on vit, on devient la personne qu'on est. Et c'est valable, finalement, pour tout le monde.
Une quête de développement personnel à deux, d'une certaine façon, des deux jumelles franco-britanniques qui font de la claquette en plus. Vous avez tout pour attirer l'attention, hein, clairement. Je ne sais pas si on peut parler peut-être des actus. Alors oui, il y a la sortie du, avant de se quitter, quand même, la sortie du 24 janvier de l'EP Shoes. Mais il y aura peut-être des concerts, d'autres clips qui vont sortir encore. C'est quoi le calendrier?
Alors là, on vient tout juste de... Pour les actualités, on vient tout juste de sortir le deuxième single de l'EP qui s'appelle Miroir avec deux O aussi, comme Fuse. Pour nous retrouver, c'est assez simple, du coup, ce titre. Et c'est justement le reflet, l'image que l'on donne. Et après, on aura quelques dates de concert, dont une date à Tiercé en mars prochain. Alors, j'ai pas la date exacte, mais... À vérifier sur notre site internet, sur whoiswhomusic.com.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour se dire au revoir, les ambitions pour 2025 ou pour encore plus tard, l'album peut-être, des diffusions sur toutes les radios nationales? Je ne sais pas s'il y a une ambition cachée derrière votre projet.
Mais derrière nos projets, pour l'instant, on s'autoproduit grâce à l'association Les Mises en Lumière, qui est label et producteur de spectacles et qui soutient des artistes en développement comme nous. Et l'idée, c'est de trouver d'autres partenaires professionnels pour nous aider en développement et éventuellement, pourquoi pas, continuer avec un deuxième EP et un nouveau live, évidemment, parce qu'on est des artistes principalement de scène, en dehors de la partie musicale, et voilà, de pouvoir être soutenu par des partenaires, des mécènes, et continuer à se développer, voilà, en artiste indépendante, mais tout autant en ayant des soutiens professionnels dans l'industrie musicale, voilà.
Merci beaucoup, Émilie, ou Daisy, je sais pas qui l'une ou l'autre qui était en train
c'était
de parler.
Émilie.
C'était Émilie, je m'en doutais, mais j'osais pas. Émilie, Daisy, merci beaucoup, Who is Who, avec l'EP Shoes qui sort donc le 24 janvier 2025. On va se donner un extrait concret pour se quitter dans Topette ce soir. On écoute quoi? Vous préférez Shoes ou Mirror?
On a le choix entre les deux, mais alors Miroir vient tout juste de sortir, donc pourquoi
c'est
pas
tout frais.
Comme c'est tout frais. Ça sera Miroir et Shoes, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux pour voir l'intérieur des musées des métiers de la chaussure. Voilà.
Et ben on écoute Miroir alors sur le 100.5 FM. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir.
avec les autres, me voilà. Avec les autres, suis bien moi.
C'est fini pour ce soir. Merci beaucoup, Nolwenn. Tu connaissais, toi, le THV ? T'as déjà été voir des spectacles, peut-être ?
J'ai jamais été voir de spectacle, mais j'y suis déjà allée comme ça.
Voilà, bah, on t'encourage à aller voir des spectacles au THV, même si tu commences à être moins jeune, puisqu'on a compris que le THV était axé. Oh, ah non, fallait. Non, si, t'es très jeune. Pardon, Nolwenn. Très belle interview, en tout cas. Et Gurval, oui, justement.
Et le THV a effectivement une vision vers la jeunesse, mais c'est également un lieu qui est pour tous les âges. On a des spectacles. Quand on a un spectacle à partir de 16 ans, je pense qu'on est sur un spectacle adulte.
Bon, Gurval, Séverine, justement, vous êtes encore avec nous. On a deux petites minutes pour conclure. Ce qu'il faut retenir du projet culturel en un mot, hors conditions, subventions qui baissent et tout ça, qui s'en vont. Gurval, Séverine, ce qui est porté par la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, on a compris qu'il y avait un intérêt. C'était sincère et authentique, le fait que la vie culturelle soit aussi importante là-bas. Qu'est-ce qu'il faut retenir du projet culturel de la ville, Séverine ?
J'ai envie de dire, moi, que c'est un projet optimiste, qui a envie d'être ouvert sur les autres, l'ouverture, l'optimisme, et puis et l'innovation, parce qu'il y a toujours des bonnes idées, et ça, pour ça, les équipes, elles sont top.
Gurval, tu acquiesces ?
Ouais, j'acquiesce, et j'aurais envie de dire que c'est un projet qui est tourné vers l'avenir. Quand on parle de l'enfance et de la jeunesse, on parle de l'avenir. Quand on parle de la joie, on parle de l'avenir. Quand on parle de la culture, on parle de l'avenir. Et que c'est un projet qui, en plus, moi, je le revendique très fort à cet endroit-là, c'est un projet qui n'est pas déconnecté, en fait, d'une population, d'un lieu, d'un territoire. On est souvent, ce qu'on ressent, en fait, avec le public dans la relation que nous avons, c'est qu'ils sont un peu à la maison. Et c'est chouette. Parce que du coup, on crée de vrais liens. Et cette notion de territoire, de gens, de rencontre, elle est au cœur du projet. Donc, avenir, rencontre et continuons comme ça.
Et d'un tout petit mot, vraiment un tout petit, sur justement cet avenir qui semble s'assombrir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Comment on peut se mobiliser éventuellement, Séverine, Gurval ?
Eh ben, il faut y croire. Hein. Il faut y croire. Les gens vont y croire. Enfin, moi, je vois pas d'autres possibilités. Enfin, il faut y croire.
Et il faut garder les yeux ouverts et continuer à aller fréquenter les lieux de spectacle qui sont multiples et variés. Il y en a plein, toujours à proximité, mais allez-y. Surtout, n'hésitez pas à pousser les portes des lieux. Aérez-vous, prenez un peu de hauteur à chaque fois. Et puis, c'est une vraie émancipation, en fait.
À faire, à suivre. Donc, merci beaucoup, Séverine et Gurval, d'être passés dans Topette. Ce soir, Gurval Reto, directeur des affaires culturelles, justement, du THV, du Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou, et Séverine Gaborio, élue à la culture de cette même commune. Nous, on se dit à demain, 18h10, on sera avec les bocaux du bocage. On va bien manger, je pense, Nolwenn. Hein.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Ouais, on a déjà faim. Prenez soin de vous, à demain, et Topette.
Je retrouve rien. glace. On est des bagnoles, bonnes pour la casse. Qu'est-ce que je peux faire de ma colère? Sans tromper d'adversaire. J'ai qu'une arme pour gagner la guerre. Je suis majoritaire. On vit à deux, on est mariés. On était heureux, mais on peut plus payer. Les bourgeois sont bigames, pas besoin de mariage. Ils se payent ma femme pour le ménage. Hier j'ai pris cher du coup de trique dans la gueule de prolétaire périphérique. J'en ai pris des tas, on m'a menti. Je croyais que l'État était gentil. Qu'est-ce que je peux faire de ma colère? Sans me tromper d'adversaire. J'ai qu'une arme pour gagner la guerre. Je suis majoritaire. Ils cognent les pauvres, font pas semblant. J'ai la vie sauve, ouais, je suis un petit blanc. Mais quand on est prolo, on se fait défoncer par ceux qui sont là-haut. Qu'on soit clair ou foncé, y'a pas de palace ni d'héritière, nous on a la classe. Bien populaire, pour une seule cartouche, on sort des centaines. On fermera nos bouches quand elles seront pleines.
T'as cru gérer tes revenus sans comprendre la leçon. Plus je suis paumé, moins je supporte ta moindre affection. Fais demi-tour ou allégeance à mon côté bresson.
Poussez, poussez-vous, faites place au grand fou. Un détraqué de plus parmi la foule. Couchez, couchez-vous, place au compte à rebours. Ça y est, je répands la boue.
Juste avoir le parcours et t'apercevoir que je suis pas dans la norme. Et vite s'il te plaît, récite compète. Dark en moi ou en pochette. La façade est belle mais l'envers est sale. Car la vie ne fait pas le moine.
Radio G. En RNT à Angers. Radio G, un point c'est tout.